Bonjour Gaëlle, bonjour Chériane.
Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes toutes les deux étudiantes en master Magemi, donc master gestion et mise en valeur du patrimoine et des œuvres d'art, objets ethnographiques et techniques à l'université de Rennes 2. Et donc vous êtes dans les studios de Scilab aujourd'hui pour parler de l'exposition Sonorez sur la route d'une Bretagne sonore de 1939 à nos jours, qui est une exposition donc, que vous avez préparée donc au sein de votre master, et qui se tient dès lundi, donc le 4 avril, jusqu'au 22 juin prochain. Donc c'est une exposition qui s'inscrit dans votre cursus, puisque chaque année, donc, les étudiants de ce master doivent concevoir et produire une exposition. Alors comment vous en êtes venu à choisir ou à devoir traiter ce sujet donc, de la Bretagne sonore?
Alors on a eu deux contraintes en début d'année. C'est le cas pour toutes les promos du master Magemi. La contrainte du lieu, et la contrainte du sujet de l'expo. Donc c'est notre équipe pédagogique qui a choisi donc, le sujet la musique bretonne, et le lieu, la BU centrale, la bibliothèque universitaire du campus, et la bibliothèque universitaire de musique qui se trouve au tambour sur le campus aussi. Donc ça n'a pas été un choix des élèves, mais de notre équipe pédagogique. Et après, nous, on a dû traiter ce sujet et les contraintes du lieu tout au long de l'année.
Ok. Est-ce que, avant ce projet, vous, c'était quoi votre rapport à... Alors là, c'est la Bretagne sonore, mais ça touche quand même à la culture bretonne. Vous, avant ce projet-là, avant cette année-là de master, c'était quoi votre rapport à la Bretagne, à la culture bretonne?
Alors pour ma part, je ne suis pas du tout bretonne, je n'ai jamais vécu en Bretagne, donc je suis arrivée l'année dernière, dans le cadre de la première année du master. Je ne connaissais pas grand-chose de la culture bretonne, hormis les crêpes, vraiment très, très cliché. Mais néanmoins, je suis très contente d'avoir pu traiter de ce sujet sur la musique bretonne, parce que j'ai vraiment découvert la culture, la musique et les valeurs aussi que véhicule la musique bretonne. C'est beaucoup lié au rythme de vie des gens, au partage, à la transmission. Il y a aussi une vraie force qui émane de la musique, et c'était très, très, très beau en tout cas de traiter de ce sujet. Et voilà, et puis j'ai appris des choses, et quand j'ai pu en parler autour de moi dans mon cercle amical, familial du sujet, on voit que voilà, les gens ne connaissaient pas trop la musique bretonne, et on voit des sourires se dessiner, donc ça fait plaisir en tout cas, ouais.
Et moi, je viens de Laval, près de Laval, et ça fait 5 ans que je suis à Rennes 2. J'ai fait ma licence ici à Rennes 2, Humanité, et du coup, comme Chériane, l'année dernière, le M1 et cette année, le M2, Magemi. Donc, j'ai toujours été plus ou moins proche de la culture bretonne, des crêpes et des galettes. Et la culture du fest-noz, j'en entendais aussi beaucoup parler. J'ai toujours vu des affiches de ces festivals-là dans les rues. J'étais jamais allée, et du coup j'ai beaucoup appris aussi plutôt sur le pan contemporain de la musique bretonne, qui est toujours très actuel. Voilà.
Et alors, donc cette exposition qui est consacrée à la Bretagne sonore, vous êtes partie d'une collecte qui a été réalisée par le MNATP, donc, qui est le Musée National des Arts et Traditions Populaires, donc qui est un musée qui a été créé à Paris à la fin des années 30. Cette collecte a eu lieu dans les années 30 et s'est arrêtée brusquement en 39 à cause de la Seconde Guerre mondiale. Elle était faite de quoi cette collecte en fait? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Qu'est-ce qui avait mené à l'époque le musée à vouloir lancer un tel projet?
Alors du coup, en fait, l'exposition, elle se base sur tout un travail qui a été réalisé par Marie-Barbara Le Gonidec, une ethnomusicologue qui fait partie de notre comité scientifique et qui a justement collecté, compilé toutes les archives sonores, photographiques, vidéos de cette mission en Basse-Bretagne. Et donc qui a fait l'objet d'un livre édité en 2009 qui porte le nom de Mission Basse-Bretagne. Donc en fait, il s'agit, voilà, comme vous l'avez rappelé, d'une mission qui a été réalisée par le MNATP. On est un peu dans cette veine de redécouvrir un petit peu les traditions et les cultures de la France. Et en fait, Claudie Marcel Dubois, ethnomusicologue qui a des origines bretonnes, si je ne m'abuse, a été sollicitée pour mener cette exposition avec Janine Auboyer et un linguiste et religieux, l'abbé Falerin. Donc tous les trois par... bon, par leur formation, mais aussi par la langue, puisque voilà, l'abbé Falerin était brittophone. Ils étaient les mieux placés, je dirais, pour se rendre en Basse-Bretagne et mener cette collecte sur ces 2 mois.
Ok, donc là, c'est vraiment l'équipe dans les années 30.
Voilà, ouais, ces trois personnages-là formaient l'équipe qui se sont rendus sur le terrain avec donc un enregistreur. Et ils sont allés voir les populations de toute la Basse-Bretagne pour enregistrer des gens en train de chanter dans les lieux où ils habitaient ou de leur quotidien ou des lieux festifs, des mariages, etc. Et ils ont aussi, du coup, pris des images, enfin des photographies ou des films lors de danse et de chant. Voilà.
Et je l'ai dit, la collecte a dû être interrompue à cause de la Seconde Guerre mondiale, mais donc vous, l'exposition traite de cette culture-là, de cette Bretagne sonore, donc jusqu'à nos jours, donc ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Est-ce que vous aussi, vous avez dû justement partir collecter des choses vous rendre en Basse-Bretagne, ou alors vous avez simplement travaillé avec une nouvelle fois des spécialistes de la question?
Alors, pour le coup, nous n'avons pas eu l'opportunité de nous déplacer géographiquement, mais néanmoins, nous avons eu le privilège et le plaisir de travailler avec beaucoup de personnes, notamment, je pense, à l'association d'Astume, qui abrite une grande base de données qui concerne donc des collectes musicales, culturelles de la Bretagne, et donc qui nous ont gentiment proposé des images, des musiques, pour enrichir notre contenu scientifique. Nous avons aussi pu travailler, donc voilà, comme je le disais tout à l'heure, avec Marie-Barbara Le Gonidec, ethnomusicologue, qui a pu nous aiguiller en fait sur le sujet, sur ce qui était pertinent à dire ou non. Nous avons aussi travaillé avec Tristan Jézéquel, donc qui est chercheur et qui, lui, s'axe plutôt sur la partie contemporaine de la musique. Donc on a su trouver, je pense, les bonnes personnes référentes pour nous aider dans ce sujet qui est très, très large. Donc nous, ce qui sera présent à la BU Musique et Centrale, c'est une approche, donc ça ne concerne pas toute la musique bretonne, mais justement, la BU de musique, c'est aussi un lieu qui illustre le revivalisme de la musique bretonne sous la forme d'un point d'écoute intimiste. Donc il y aura des affiches de Festnoz en partenariat avec le Musée de Bretagne, qui accompagnent les disques et les grandes figures musicales. Donc voilà, les visiteurs désireux d'approfondir et, on va dire, d'en savoir un petit peu plus sur la musique et sur les personnages qui ont marqué la musique bretonne pourront s'y retrouver à l'abbaye musicale.
Et est-ce que, donc du coup, qu'est-ce qu'on pourra trouver en plus donc, de ces points d'écoute, de ces choses-là, comme format dans ces expositions? Est-ce qu'il pourrait y avoir aussi des photos, des choses plus matérielles?
Alors, à l'abbaye centrale, on a le cœur du propos de notre exposition. C'est en fait la chronologie de la mission. Donc, la présentation du musée, du MNATP, l'arrivée sur le terrain de l'équipe, leur travail de recherche, leur travail de collecte, puis l'après-mission, les temps de guerre, et ensuite la partie un petit peu plus contemporaine qui va se retrouver du coup dans la BU Musique. Et donc, dans la BU centrale, on va avoir des photographies, on va aussi avoir du film, des objets, des archives, des facsimilés, du texte, du contenu texte, et des objets, on vous en dit pas plus, mais des objets, oui, qui seront présents, et des instruments qui seront présents dans la BU centrale.
Ouais, donc beaucoup de choses quand même, ouais. beaucoup de formats. Et alors, justement, cette exposition, alors ça étudie quand même, la Bretagne sonore presque un siècle, un peu moins d'un siècle quand même. Et justement, comment vous la percevez? Enfin, vous avez pu étudier comme ça ce sujet sur des décennies. Est-ce que justement il y a une sorte de, il y a pu y avoir une perte? Est-ce que les choses se sont perdues un petit peu? Parce que vous parlez du revivalisme, etc. Mais là, du coup, on est en 2022, donc ouais, ça va faire presque 100 ans. Est-ce que justement cette culture-là, c'est perdue, ou alors est-ce que elle arrive encore à se transmettre? Enfin, quelle image vous en avez?
Alors, par rapport à notre sujet, c'est vrai que la culture bretonne, en tout cas la musique, a toujours été vécue, comme on disait, ça rythmait le quotidien des habitants, que ce soit en Basse-Bretagne ou en Haute-Bretagne. Donc c'était vraiment, ça faisait partie voilà, de la vie quotidienne des habitants. Et effectivement, avec la Seconde Guerre mondiale et toutes les difficultés que ça a pu poser, que ce soit en Bretagne ou ailleurs, la culture a été mise à mal et justement, c'était uniquement les anciennes générations qui connaissaient les danses traditionnelles, qui savaient chanter les chants traditionnels. Et justement, Loès Ropars, donc une des figures de ce revivalisme, s'est rendu compte que ce patrimoine musical était en train de se perdre, de s'éparpiller. Et justement, il a initié beaucoup d'événements intergénérationnels festifs, un petit peu, je dirais, l'ancêtre du fest-noz, pour justement connecter toutes les générations au patrimoine musical. Et ensuite, avec le Alan Stivell, notamment, qui a vraiment modernisé la musique bretonne, notamment en ressuscitant la harpe celtique, en l'électrifiant, la musique bretonne est passée sur scène. Donc on avait une image aussi moins passéiste de cette musique. Et justement, les gens, en fait, ont pu redécouvrir, en fait, la musique bretonne. Et du coup, elle est aujourd'hui véhiculée à travers les fest-noz, le festival Yaouank. Enfin, il y a beaucoup d'événements culturels et festifs autour de la musique. Donc, c'est une musique qui a été en déperdition, mais qui aujourd'hui a été sauvegardée, collectée. Et il ne faut pas oublier de dire qu'en 2012, le fest-noz a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc c'est aussi une preuve que voilà, c'est un patrimoine qu'il faut préserver et qu'il faut collecter. Et c'est l'une des missions notamment de Dastum en tant qu'association locale bretonne qui permet d'enrichir et d'actualiser toute la documentation autour de la musique bretonne.
Et justement, Alan Stivell dont tu parlais, fête ses 50 ans je crois de scène, ou les 50 ans de son premier Olympia justement, lui qui a popularisé le thème Trimartolo. Est-ce que déjà, vous avez pu comparer, enfin est-ce qu'on peut comparer, est-ce que vous avez pu comparer ce qui se fait en Bretagne justement par rapport à tout ça avec d'autres endroits en France ou dans le monde. Enfin, est-ce qu'en Bretagne, cette sauvegarde-là, elle est du patrimoine, je veux dire, musical, culturel, elle est plus forte qu'ailleurs ou pas?
On avait eu, je ne sais pas si on peut regarder, on avait eu au début de l'année, quand on a connu ce sujet-là, on s'était dit potentiellement qu'on allait peut-être faire des comparaisons, tu sais, avec la musique, qu'est-ce qu'on avait dit? Bah, justement, Scandinave, il avait dit aussi Guéna, ou de la musique d'autres régions, effectivement. Et nous, on n'avait pas pu... Le contenu de la mission et juste déjà la musique bretonne, c'était énorme, c'était hyper large comme sujet. On ne pouvait pas le traiter, on ne pouvait pas faire de comparaison, on n'avait pas le temps et l'espace pour le faire. Mais je pense que c'est une question à soulever, mais qu'on n'a pas eu le temps de faire cette année, effectivement.
Ok. Vous parlez de la musique aussi, de la musique, on va dire, contemporaine, de notre époque, etc. Est-ce que, par exemple, des groupes comme Mano, comme Matmata, ces groupes des années 90 qui ont repopularisé, donc je pense à Mano qui a repris justement le thème de Trimartolo, ces choses comme ça, est-ce que ça a pu participer, même si effectivement, on parle des années 90, ça paraît toujours un peu, pas forcément ringard, mais un peu kitsch et tout, est-ce que ça a pu participer aussi à justement... maintenir un petit peu et relancer un peu cette culture bretonne aussi. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu étudier, dont vous avez pu parler?
Oui, carrément. Bah, effectivement, les groupes des années 90, déjà, juste le fait que la musique bretonne soit jouée sur scène dans des festivals, en fait, ça dit quelque chose. Ça dit que la musique bretonne a sa place parmi toutes les autres musiques, puisque le revivalisme qu'elle a connu, ça s'est aussi fait pendant la vague folk des années 60. Donc en fait, la musique bretonne a, je dirais, elle a plus, comme je disais tout à l'heure, cette vision passéiste, ancienne, paysanne, rurale.
Il peut y avoir en fait avec la musique folklorique, entre guillemets, il y a cette vision un peu ringarde, entre guillemets.
Et en fait, justement, les groupes dans les années 90 ont montré que la musique bretonne, ça n'était pas ça, en fait. C'était une musique qui évoluait au gré de son temps,
qui est actuelle.
Voilà, qui est actuelle, qui est moderne et qui fait danser aussi bien toutes les générations. Donc, ils ont su rassembler, je pense, tout le monde. Et surtout, par exemple, le concert d'Alan Stivell à l'Olympia, c'était vécu intensément. Enfin, oui. Même des gens, des Bretons ou des personnes d'autres régions étaient fascinés par cette musique. Et en fait, je pense qu'ils ont vraiment pu découvrir ou redécouvrir la beauté et la richesse de la musique bretonne. Donc, ouais, les années 90, ça a été une époque charnière, ouais, pour, je pense, reconnaître à sa juste valeur la musique bretonne.
Et alors, donc, j'ai dit, vous faites partie donc, de ce master de gestion et de mise en valeur donc, du patrimoine des œuvres d'art, des objets ethnographiques et techniques. c'est un petit peu long. est-ce que, donc, vous, à l'avenir, est-ce que c'est... Comment dire, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce master et est-ce que vous souhaitez exercer dans ce domaine-là plus tard ?
Pour ma part, je sais que j'ai toujours voulu travailler dans les musées. J'ai notamment eu quelques expériences professionnelles dans les musées et je trouvais que ce master était très pertinent puisqu'il offrait en fait une dimension professionnalisante qui nous permettait de développer des compétences propres à la conservation, à la création d'expositions, même si on n'a pas pu s'investir dans tous les pôles, j'entends pôle régie, donc c'est tout ce qui est mouvement des œuvres, prêt des œuvres, la partie recherche, la partie graphisme, on n'a pas pu tous s'investir sur ces pôles, mais en tout cas, ça nous a permis aussi de travailler avec des professionnels, donc des muséographes, des scénographes, donc c'est celui qui s'occupe un petit peu de la mise en espace d'une exposition, d'un graphiste, et donc on a pu bénéficier de leur expertise, de leurs conseils, et donc ça nous a un petit peu donné un éventail, un petit panorama de toutes les questions, de toutes les problématiques que l'on doit traiter quand on crée une exposition. Donc je trouve que ça nous a bien plongé dans le monde du travail. Après, pour ce qui est des sujets purement musicologiques, je n'y suis pas fermée. Après, je sais que moi, j'aime bien aussi les sujets ethnographiques, donc tout ce qui touche aux cultures, aux civilisations. Donc c'est plutôt dans des musées de société que j'aimerais travailler plus tard, mais je ne me ferme pas de porte pour autant.
Et toi, Gaëlle, du coup ?
Effectivement, on a des profils un peu différents dans toute la promo. Je ne suis pas fermée aux musées de société, mais moi, je serais plus pour travailler dans des musées de beaux-arts ou des centres culturels. Mais voilà, toutes les personnes qui sont dans notre master souhaitent plus tard effectivement travailler dans un musée, soit en tant que régisseur, en tant que conservateur, conservatrice, médiateur, médiatrice, chargé d'exposition. Voilà. C'est un master qui nous forme à tous ces métiers-là.
Donc cette exposition sonoraise sur la route d'une Bretagne sonore de 1939 à nos jours donc, débute lundi prochain, donc le 4 avril, se tient jusqu'au 22 juin. Le vernissage a lieu le 6 avril. Est-ce que, donc c'est à la BU centrale et à la BU de musique, est-ce qu'il y aura également d'autres événements en parallèle de cette exposition ?
Oui, on a quatre programmes là en liste. Donc on a le 7 avril à 19h30, on va avoir une conférence de Vincent Morel en amphi L3 pour ceux qui connaissent le campus, et il va venir nous parler de Dastum Media, donc c'est la base de données en ligne, et il va nous parler des archives donc en ligne du patrimoine oral de Bretagne. Ensuite, ça sera suivi du 11 avril à 19h15 en amphi L2 cette fois. Et donc là, c'est Marie-Barbara Le Gonidec qui va venir, qui va nous faire l'honneur de sa présence pour nous faire une conférence qu'elle a intitulée « La mission de folklore musical en Basse-Bretagne de 1939 ».
Ensuite, le 13 avril, donc en amphi L1, nous avons le plaisir d'accueillir Tristan Jézéquel et Clément Le Goff qui vont nous parler de la professionnalisation d'une scène bretonne à l'heure de la mondialisation. Donc en fait, il s'agit d'analyser d'un point de vue anthropologique, sociologique et historique les évolutions de ce qu'on peut appeler la scène bretonne depuis l'Olapia d'Alan Stivell à aujourd'hui. Et enfin, nous avons le plaisir de pouvoir faire jouer un groupe qui s'appelle le Bourbodros. donc, qui est composé de Yuen Brodro, c'est un accordéoniste, et Timothée Lebourg, qui est au saxophone. Donc, c'est un groupe qui joue des sons traditionnels bretons avec des éléments plus modernes et de jazz. Donc, cet événement aura lieu au 4 bis, donc le 14 avril à 20h30. L'entrée est gratuite dans la limite des places disponibles. Donc, on compte sur vous pour, pour venir voilà, passer un bon moment musical avec ce groupe. Donc, c'est une programmation culturelle qui, voilà, on voulait un petit peu l'exporter, donc avec ce concert-là, mais c'est important aussi pour nous de qu'elle puisse être vécue aussi sur le campus, voilà, d'amener aussi tout ça sur le campus. C'est gratuit, c'est ouvert vraiment à tout le monde, aussi bien les personnes qui s'y connaissent en musique bretonne et ou pas du tout. Donc, il n'y a pas de souci. À chaque fois, il y aura un temps d'échange, donc ça peut être intéressant, voilà, si... Parce que ce sujet est tellement vaste, on a tous, je pense, des questions qu'on aimerait poser, donc ce sera possible. Et on est très heureux, en tout cas, d'avoir pu mettre ça en place. Donc,
Oui, et puis une exposition qui donne à voir avec un large panorama quand même de format, que ce soit l'exposition ou les conférences. Merci Gaïa et Sharen d'être donc venues parler de cette exposition dans les studios de Syllab.
Merci bien.